Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Donc on a fait un premier tour de constat. Un peu diversifié avec l'ensemble des transports par Brigitte Jarry du Shift, quelques éléments sur les notions de marché, de l'énergie et des transports. Et puis là, un peu une histoire de l'automobile française et de la France moche, comme tu l'appelais, Philippe. Pour ce deuxième temps, qu'on va essayer d'envisager le futur avec vous, le futur des transports. Donc il y a sûrement des aspects purement techniques et les deux films que l'on a vus précédemment allaient dans ce sens-là. Mais encore faut-il savoir lesquels. Est-ce que c'est plus de véhicules autonomes? Alors j'ai croisé un ancien collègue du domaine du véhicule autonome parce que Jean-Pierre m'a présenté comme enseignant la philosophie en école d'ingénieur. J'enseigne la philosophie sur les questions techniques, technologiques, sciences techniques et société en école d'ingénieur, mais avant ça j'ai travaillé dans le domaine du véhicule autonome. Est-ce que c'est ça le futur des transports? Est-ce que c'est l'hyperloop comme on a eu à Toulouse qui a englouti pas mal d'argent public et puis qui a mis l'hyperloop? L'hyperloop c'était un projet de transport ultra rapide, de train ultra rapide dans des tubes sous vide et qui ne verra probablement jamais le jour ni au niveau mondial et encore moins à Toulouse. Toujours est-il que ça, c'est des sujets sur lesquels on a un fonctionnement de type économie des promesses. Hein, il suffit de vendre une idée et on a du financement. Donc est-ce que voilà, le futur des transports, c'est beaucoup de l'économie des promesses, ou est-ce qu'on a d'autres éléments pour enclencher des bifurcations, notamment des bifurcations de mode de vie? Mais quand on parle de sobriété dans les transports, il y a un terme qui ressort parfois, c'est le terme de démobilité. Alors comment est-ce qu'on pourrait créer de la démobilité, réduire la part de la quantité de kilomètres parcourus, tout simplement. Brigitte, je vais te laisser la parole pour donc voir un peu quelles seraient les grandes lignes directrices selon toi.
Juste en rapide, les principales pistes qu'on a mises en valeur, dont certaines sont un peu originales, d'autres sont plus classiques, on va dire. Pour le transport de marchandises, il y a d'abord tout un volet sur la transformation de la demande, réduire la demande, donc consommer plus local. On a estimé que pour les produits agricoles, on pourrait diminuer de 60% par exemple les tonnes kilomètres, hein, le transport de marchandises. Augmenter la durée de vie des produits, c'est aussi quelque chose qui va par nature diminuer le besoin de transporter des produits, puisqu'on achète moins souvent. Voilà, donc, on va revenir quand même deux minutes. Favoriser le fer et le fleuve, puisqu'on a deux modes de transport qui ont de la capacité et qui sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins consommateurs d'énergie. Donc, on peut rappeler qu'un train, ça fait à peu près 40 poids lourds. Hein. Un train, ça transporte 1000 tonnes assez facilement, alors que les poids lourds, c'est 40 tonnes en théorie, c'est 25 plutôt dans la pratique. Limitation de la vitesse des poids lourds, tout ce qui peut en fait dégrader, on va dire volontairement, allons-y, l'attractivité du mode routier par rapport à des modes de transport plus vertueux. On peut penser à des obligations de passer par le fer ou le fleuve pour les flux de transit, par exemple, comme ça se fait en Suisse, ou pour les flux de longue portée, par exemple au-dessus de 500 km. Donc on a un objectif de faire x2 pour le train, ce qui reviendrait à avoir des parts de marché en France qui ressemblent à la moyenne européenne, tout simplement, c'est pas plus ambitieux que ça, et x3 pour le fleuve, avec quand même des investissements sur les réseaux à envisager en conséquence. Sur le ferroviaire, il y a par exemple une alliance qui s'appelle 4F, qui a produit des propositions d'investissement à faire pour développer le transport de marchandises. Améliorer les taux de remplissage, parce que c'est quand même dommage de circuler à vide ou peu rempli. Et puis, sur le dernier kilomètre, des propositions de mutualisation et d'intervention plus forte des autorités publiques, puisque finalement, actuellement, dans les transports, on a un système où le transport de marchandises est extrêmement libre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais enfin, il y a peu d'intervention publique dessus. Contrairement au transport de voyageurs, ou au moins dans la sphère urbaine, de proximité, on a une présence forte d'autorités organisatrices qui sont donneuses d'ordre. Voilà. Donc il y a une grande anarchie sur le dernier kilomètre, la logistique en centre-ville. Et ça serait pas mal d'avoir un peu d'ordre dans tout ça, on va dire, d'optimisation. Je n'ai pas fait de slide sur la mobilité courte distance pour laquelle on pousse fortement le vélo, évidemment. Hein, mais comme beaucoup de gens, c'est tellement clair que c'est une piste, et pas seulement pour les centres-villes et les bobos, mais en périurbain aussi, ça a beaucoup de sens. Donc, 250 millions d'euros débloqués par le gouvernement, c'est du dire même de Clément Beaune simplement du rattrapage, mais il va falloir continuer. Et puis il y a tout un pan de réflexion qui consiste à dire qu'il faut pousser à la revitalisation des villes moyennes, et donc ça, par nature, évidemment, la ville du quart d'heure et les déplacements de courte portée, on va par nature induire davantage de marche à pied et de vélo, et moins de déplacements en voiture. Pour la longue distance, juste quelques éléments sur le scénario qu'on a construit. D'abord, à horizon 2050, on suppose que les kilomètres parcourus par habitant sont stables, ce qui est déjà en tant que tel une hypothèse de sobriété, puisque actuellement, ça continue à progresser dans les dernières enquêtes. On a des hypothèses spécifiques de sobriété sur l'aérien. Bon, on a pris quelques règles de trois pour essayer de caler un scénario et voir ce que ça donne. Et puis, est-ce que c'est acceptable ou pas? Nous, il nous semble que c'est pas un effort démesuré. Par exemple, 30% des voyages... Il y a un volet sur le professionnel. Et puis, ce que j'avais en tête surtout, c'est sur le 30% des voyages longue portée pour vacances, on pourrait les faire deux fois moins souvent et puis rester plus longtemps sur place. Et un autre 30% être transformé en voyage en Europe, par exemple, avec des trains de nuit qu'il faut bien sûr redévelopper. Et donc on transforme à la fois le mode de transport, mais l'ensemble du voyage. Hein. Donc du coup, on a eu aussi pas mal d'échanges avec des professionnels du tourisme, parce que le tourisme, qui n'était pas identifié comme un secteur à part entière au départ dans le PTEF, on le traite via ce volet de la mobilité de longue distance. Donc, le sujet, c'est finalement de rendre attractif individuellement quelque chose qui est vertueux collectivement. Donc report vers le train, on va être rapide là-dessus. Hein. Après, ça, c'est juste des proportions qu'on a posées pour faire le calcul et regarder si, oui ou non, on arrivait à peu près au niveau de décarbonation attendu. Bon, sur les déplacements pro, ce qui était assez intéressant, c'était d'entendre de la bouche de gens qui ont fait des enquêtes là-dessus que c'est essentiellement actuellement le tempérament du patron qui est la variable principale dans le domaine. Donc en gros, il y a des entreprises où les patrons demandent à ce qu'on prenne pas trop l'avion. Et c'est essentiellement ça, hein, c'est surtout le sujet de l'avion. Il y a les flottes automobiles aussi qui peuvent être un levier intéressant. Si les entreprises peuvent mettre à disposition de leur cadre des vélos électriques plutôt que des voitures, des grosses voitures, des SUV hybrides, ça serait évidemment dans le bon sens. Ça, c'est un petit peu la façon dont on a travaillé, nous, hein, notre petite équipe de trois personnes là-dessus. Donc on a découpé les déplacements par nature. Je ne sais pas si Olivier me donne encore un peu de temps. Bon, diversifier l'offre de tourisme haut de gamme, ça c'est vraiment le lien entre l'offre de tourisme et l'offre de transport, puisque en fait il faut d'une main transformer les transports et en particulier donc investir sur le ferroviaire, parce que on va avoir finalement un potentiel qui est de l'ordre du triplement du nombre de voyageurs kilomètres sur les rails. Hein. Ça va assez vite. Actuellement, on a, si on se réfère aux voyageurs kilomètres, hein, par mode, on a 43% de VK en aérien, 43% de VK en routier. C'est exactement équivalent. Et on a un petit 12% en train. Donc il suffit de pas grand-chose si on dégonfle un peu les deux gros modes au profit du petit. Ça va très vite de faire tripler le petit. Donc finalement, notre scénario, on est avec trois modes de transport qui sont plus équilibrés à long terme, puisqu'ils ont pratiquement un tiers pour chacun des déplacements kilomètres des Français. Mais pour le train, x3, ça suppose des investissements importants. Donc on a contribué aussi à la réflexion sur le schéma d'investissement sur le ferroviaire, on va dire. Aussi signaler que les électrifications de lignes, c'est un point technique un petit peu particulier, mais il faut savoir que c'est plus du tout à la mode actuellement d'électrifier les lignes de chemin de fer hein, par caténaire. On pose des poteaux et on met du fil. Or, c'est quand même une façon extrêmement efficace d'apporter de l'électricité avec beaucoup moins de pertes en ligne. Quand on passe par la batterie, par exemple, on perd à peu près 30% de l'énergie. Et si on veut avoir un vecteur hydrogène, on repère aussi une fraction importante de l'électricité. Donc si on économise l'électricité et si on prévoit un volume de trafic assez significatif, il faudrait se reposer la question d'électrifier les lignes. Et actuellement, on a quand même des régions, des conseils régionaux qui fantasment beaucoup sur l'hydrogène. Ils sont assez poussés par Alstom et l'Air Liquide qui ont quelques intérêts dans l'affaire. Donc voilà, donc c'est aussi une des choses qu'on a indiquées dans nos suggestions pour l'avenir du chemin de fer en France. Bon, ça, le petit divisé par deux, ça veut juste dire qu'une voiture électrique, ça consomme deux fois plus qu'un train électrique hein, aux voyageurs kilomètres, alors même qu'en train, on va plus vite, hein, en moyenne. Donc, c'est pas complètement équivalent. Oui, il faut électrifier la voiture. On l'imagine en 2050 complètement électrifiée. Hein, on a quand même un petit peu le temps avec le rythme de renouvellement normal des flottes de voitures, ça va se faire. Mais même la voiture complètement électrifiée, elle reste pas à proscrire, mais à maintenir un niveau le plus bas possible, puisqu'elle va consommer en cycle de vie, c'est encore plus vrai, mais même juste en usage, elle consomme beaucoup plus que le train. Donc c'est aussi une des choses qu'on signale. Voilà. Bon, j'avais que 2 minutes, je les ai déjà mangées. Bon, on verra après. Si vous avez des questions, je pense qu'on pourra revenir sur certaines choses.
Merci beaucoup, Béatrice. Effectivement, la région Occitanie se targue d'être une région championne du développement de l'hydrogène. On ne sait pas encore très bien pour faire quoi, mais on va faire de l'hydrogène. Voilà.
Même audio, une mémoire sonore.
Aurélien, je te passe la parole pour te demander du point de vue cette question du futur des transports, qu'est-ce que ça implique en termes de futur marché de l'énergie, des transports, thématique de réindustrialisation, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui devrait être réindustrialisé et quelles seraient les formes d'organisation, de gouvernance, de propriété qui accompagneraient éventuellement cette réindustrialisation. Il ne s'agit pas juste forcément de reproduire en France comme c'est fait ailleurs.
Alors, bon, moi, ce qui me frappe, désolé, c'est pas, la voix n'est pas revenue, ce qui me frappe quand je vois ce genre de présentation, c'est que bon, il y a un travail remarquable qui est fait alors par le Shift, mais je pense aussi à l'ADEME, sur des scénarios techniques. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des élus, des décideurs connaissent les enjeux. Alors, ils ne connaissent pas à ce niveau de détail, avec ce niveau de précision et d'expertise, mais globalement, ils connaissent les enjeux. Ils savent que pour répondre aux enjeux du changement climatique, voilà, il y a une question d'investissement massif dans l'efficacité énergétique, dans la sobriété, dans des transports qui émettent moins de carbone, etc. Là où il y a un vrai problème, c'est pour passer d'un scénario technique à un scénario politique. Parce que là, il y a un sacré nombre de problèmes surplombants qui empêchent d'appliquer ce genre de scénario ou d'autres. Je prends un exemple sur la mobilité. Alors, je travaille dans une collectivité locale et avec des collectivités locales sur la planification de la transition énergétique. C'est mon vrai métier parce que écrire des livres, ça me ferait pas manger. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que on essaye de faire bosser des collectivités sur le fait de faire des pistes cyclables, le fait de proposer du covoiturage, le fait même de mettre en place des systèmes d'autostop organisés. Alors que dans ces mêmes territoires, on a fermé des gares qui permettaient des déplacements domicile-travail. Voilà. Dans l'arrière-pays de La Rochelle, par chez moi, vous avez une commune qui est à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de La Rochelle. C'était desservi par le train. La plupart des habitants actifs vont bosser sur La Rochelle. La SNCF a fermé cette ligne. Et il n'est pas question aujourd'hui de la rouvrir pour des raisons évidemment marchandes. Parce que en introduisant la concurrence dans le ferroviaire, on a fait de la SNCF, service public, une entreprise qui fonctionne à peu près comme n'importe quelle entreprise privée. On a fait d'EDF, en introduisant la concurrence, une entreprise qui pilote, enfin dont les dirigeants pilotent l'activité en fonction d'objectifs de rentabilité. Donc, tant qu'on est confronté à ce problème, j'ai peur que les scénarios techniques restent des scénarios techniques, que tout le monde dise oui, c'est super, et que on réponde, on est désolé, mais c'est pas de notre sort, parce que il y a des politiques nationales qui sont celles qu'on connaît, que ça dépend de l'Union européenne avec des directives de libéralisation, et que ça dépend même du marché mondial avec la division internationale du travail. Et pour revenir sur la question de la voiture, j'ai un peu travaillé sur la filière automobile pour un autre livre qui est sorti l'année dernière sur la relocalisation. Donc je prends... il y a une première moitié de ce livre qui est assez générale, et ensuite je prends un certain nombre de filières où j'essaye de montrer comment on pourrait relocaliser la production. Puisque, bon, évidemment, la relocalisation est un enjeu majeur à la fois au niveau social et au niveau environnemental. Parce que les chiffres qu'on a vus là sont des chiffres français et ne parlent pas du transport international et des importations qui font tourner l'économie française et qui créent, évidemment, des émissions de gaz à effet de serre ailleurs et de plus en plus importantes. Alors, d'ailleurs, l'industrie a beau jeu de dire on baisse nos émissions, alors que de plus en plus ils délocalisent ou ils s'approvisionnent à l'étranger. Bref, la filière automobile, c'est 7% du PIB français. Et si vous prenez toutes les activités liées à la bagnole, que ce soit l'entretien des routes, les assurances, les garagistes, etc., c'est 20% du PIB. Autant vous dire que quand il y a un plan de relance à faire, c'est pas dans les économies d'énergie qu'on décide d'investir. C'est dans l'automobile, c'est dans l'aéronautique. C'est dans des filières comme ça qui sont un désastre environnemental et social de plus en plus. Mais qui crée de la richesse pour les grandes entreprises françaises. Alors, si on voulait faire autrement, évidemment, il faudrait développer le transport ferroviaire de façon massive pour la longue distance, mais aussi pour la courte distance. Mais ça se heurte à la dépense publique. C'est-à-dire qu'il faudrait des investissements colossaux. On ne peut pas compter, évidemment, sur le privé pour réaliser ces investissements, parce que ça serait sans doute jamais rentable, ou en tout cas pas dans des temps suffisamment courts. Donc il faudrait des investissements massifs. Malheureusement, on est dans une logique de réduction de la dépense publique. Donc ça ne se fera pas dans ce système économique-là. De la même manière, je montrais dans ce chapitre sur l'automobile. Alors, bon, deux choses. La première, c'est la fuite en avant permanente de la filière automobile pour continuer à vendre des bagnoles. On a eu le véhicule thermique, on a eu des évolutions sur les véhicules thermiques, où on nous a expliqué parce que les véhicules consommaient moins au kilomètre, ça allait être mieux pour l'environnement, donc il fallait en changer. Et donc on nous a fait renouveler le parc comme ça. Ensuite, il y a le véhicule électrique, et on va nous faire renouveler le parc avec l'argument du véhicule électrique, qui a un bilan global assez calamiteux, et en plus qui suppose d'installer des bornes de recharge. Enfin, c'est un gouffre financier, bornes de recharge qui sont financées sur fonds publics en partie. Bref. Et l'étape d'après, alors c'est peut-être la bagnole à hydrogène, on verra, mais l'étape d'après, c'est le véhicule autonome, ou en tout cas des fonctions d'autonomie qui vont être intégrées au véhicule et qui vont être une débauche d'électronique, une débauche de capteurs, de réseaux pour traiter les données, et qui vont être encore un désastre environnemental. Et donc, je montre dans ce chapitre sur l'automobile, bon, d'une part qu'il n'est pas question de relocaliser la filière automobile pour faire en France ce qu'on fait dans les pays de l'Est de l'Europe ou ce qu'on fait en Chine, c'est-à-dire des bagnoles, du véhicule individuel à moindre coût et qu'on cherche en permanence à renouveler. Mais que par contre, l'industrie automobile est l'exemple type d'une industrie qui pourrait être relocalisée pour faire autre chose que des bagnoles. Parce que quand on sait construire des moteurs, quand on sait construire des carrosseries, des systèmes de freinage, des systèmes de transmission, quand on sait construire des sièges qu'on va mettre dans une bagnole, grosso modo, on est quand même relativement capable de construire des tramways, de construire des bus, de construire des rames de train. Et donc, si on avait la volonté politique, et si on voulait rompre avec une logique de marché et avec une logique de division internationale du travail, on pourrait tout à fait utiliser les compétences qu'on a dans la bagnole, qui est, voilà, historiquement, voilà, ça a été comme ça. On a, l'économie française s'est énormément développée sur la bagnole. On a des compétences, on a des entreprises. On pourrait très bien les faire travailler sur autre chose. Mais là, ça veut dire qu'il faudrait avoir un bras de fer, non seulement avec les institutions européennes notamment, mais aussi avec les grands groupes privés qui n'iront pas spontanément sur ce type de reconversion. Donc, c'est fondamentalement un combat politique.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu ? Vous pouvez l'entendre.
Merci Aurélien pour cette présentation très claire. Et dans les éléments de réindustrialisation, de réorientation, de redirection de l'industrie automobile, il y a peut-être le vélo, ou des certains types de vélos, de véhicules intermédiaires. Ça nous fait une transition parfaite pour Philippe, ta présentation. On se posait la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prendre réellement au sérieux le vélo. Alors on se demandait peut-être vélo musculaire ou vélo électrique. Pour gagner un peu de temps, je propose d'enchaîner directement. Donc il est, je te donne tous les éléments en main, il est 18h48.
Mais j'essaie de passer vite, alors, mais voilà. Bah, si on veut prendre le vélo au sérieux, il faut d'abord sortir de la com qui entoure le sujet, revenir peut-être à quelques fondamentaux. Le potentiel du vélo pour accélérer la transition dans les villes, il est énorme, il est complètement sous-estimé. On peut viser à moyen terme au moins la moitié des déplacements dans les grandes agglomérations. Mais pour cela, il faut trois priorités, des infrastructures bien conçues, des infrastructures bien conçues, des infrastructures bien conçues. Vous allez me dire, on s'y met en France, le vélo progresse. Bah, Oui, enfin, on fait vraiment surtout n'importe quoi en termes d'infrastructures. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, le nombre d'aménagements cyclables neufs a désormais déjà tendance à baisser. On avait 5000 km d'aménagements neufs en 2018-2019, 6000 l'année d'après, 4700 seulement entre 2020 et 2021, et 2800 km en 2021-2022. Et en plus, la plupart de ces aménagements sont très discutables et parfois dangereux. Alors, j'aurais pu vous montrer les horreurs des infrastructures vélo en France. Il suffit de prendre une caméra, de la mettre sur son casque et de circuler à Paris, par exemple. Mais ça aurait pu même être assez drôle. Mais il m'a semblé plus intéressant de vous montrer qu'on peut faire autrement et de décrire des raisons profondes de la réussite en la matière de Copenhague, la capitale du Danemark. L'ampleur de ce succès invite à repenser en fait les politiques publiques en matière de déplacement en ville, en mettant le vélo au centre, en fait, au centre. Donc ça veut dire devant les transports en commun, à mon sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de transports en commun. Hein. Et en investissement dans des infrastructures cohérentes, rapides et protectrices, conçues à partir des usages et des besoins des cyclistes. Donc je vais vous emmener un petit peu en reportage à Copenhague. S'il fallait un seul chiffre en fait pour résumer le succès de cette ville. La dernière enquête d'opinion indique que 77% des habitants de Copenhague se sentent en sécurité quand ils circulent à bicyclette. Autre information démonstrative, pour satisfaire le plus grand nombre, quand il neige, puisqu'il arrive qu'il neige au Danemark, eh bien, la ville dégage en premier les pistes cyclables. Ben, c'est normal, il y a plus de cyclistes que d'automobilistes. La municipalité s'était fixée pour objectif qu'un déplacement sur deux vers le travail ou l'école s'effectue à vélo dans l'agglomération de Copenhague, objectif quasiment atteint dès 2018, avec 49% des déplacements réalisés en vélo, 18% en transport en commun, 27% en voiture et 6% à pied. Ce bilan est assez unique, hein. Le seul pays comparable c'est les Pays-Bas. J'y étais cet été, donc je pourrais en parler si vous voulez. Le vélo représente même 63% en fait des déplacements des seuls habitants de la ville intramuros de Copenhague, 17% pour les transports publics, 10% à pied, et seulement 10% des transports intramuros à Copenhague sont en voiture. En termes de trafic global, le nombre de vélos en circulation a dépassé celui des voitures depuis 2016. Alors voici l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville, à vélo et d'Europe. Donc il y a eu plus de 2 200 000 cyclistes qui sont passés ici dans les 6 premiers mois de 2018. C'est en 2018 que j'ai fait le reportage photo. Le panneau ajoute « Bonne chance et merci de faire du vélo en ville ». Observez la largeur de la piste cyclable. Ben, c'est la nouvelle norme. La nouvelle norme prévoit qu'on peut être deux l'un à côté, donc c'est ce qu'ils appellent les cyclistes qui bavardent, en roulant de front, et tout en pouvant être doublé par un troisième. Donc ça veut dire 3 mètres de chaque côté de la chaussée. Il n'y a plus de sociologie spécifique des cyclistes. Il n'y a pas les bobos, les autres, les prolos ou autres. Non, on retrouve tous les publics sur selle. Des femmes en chaussures à talons, en jupe, des hommes d'affaires en costume, des sportifs, des familles, des personnes âgées. Ces deux photos ont été prises à la sortie d'un pont qui voit passer 33 000 vélos par jour en moyenne. Un quart des foyers qui a au moins 2 enfants possède un vélo cargo. Et pour 30% de ces foyers, eh bien, ce dernier remplace une voiture. Alors, je ne m'attarderai pas sur les bienfaits du vélo. Vous les connaissez pour l'essentiel. Le bruit en moins, la pollution, les gaz à effet de serre en moins, les dépenses en moins. Ce n'est pas négligeable en période de problèmes de pouvoir d'achat. La dépendance énergétique aussi en moins. La santé en plus, l'espérance de vie en plus, la convivialité en beaucoup plus. Parlons aussi sécurité. Entre 1995 et 2016, le nombre de kilomètres parcourus à vélo dans Copenhague a doublé. Le nombre des victimes d'accidents à vélo a été divisé par 2 durant la même période, soit en 20 ans un taux de risque divisé par 4, avec seulement un cas grave tous les 5,7 millions de kilomètres parcourus. Tous les travaux internationaux sur le sujet montrent que plus il y a de vélos, moins il y a d'accidents, sauf boulevard Sébastopol à Paris, avec des aménagements conçus en dépit de tout bon sens et de toutes les études sur le sujet. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Contrairement à ce qu'on observe en France, les hommes ne sont pas majoritaires parmi les cyclistes. On compte aussi des cyclistes dans tous les milieux. Alors la question la plus intéressante, c'est quelles sont les principales raisons de choisir ce moyen de transport ? En fait, les cyclistes qu'on interroge tous les ans sur la question répondent, eh bien, en premier, c'est parce que c'est plus facile. Voilà, 55% des réponses. En second, parce que c'est plus rapide que tous les autres moyens de transport, 46% des réponses. Et parce que ça permet de faire l'exercice, 40%. Le faible coût n'est qu'une motivation très secondaire, à peine 26% des réponses. Et alors la même motivation environnementale, c'est à peine 16% des réponses. Voilà. Donc si on veut que les gens fassent du vélo, il ne faut pas penser qu'ils vont faire du vélo parce que c'est bien pour l'environnement, ils vont penser parce que c'est plus pratique pour eux en premier. C'est comme ça qu'on va trouver la motivation pour les gens. Alors observez bien le vélo de droite, c'est un Vélib local, celui qui est blanc là. On en rencontre en fait assez peu, il y a à peine 2000 vélos en libre service, soit 10 fois moins qu'à Paris pour une agglomération de 1,7 million d'habitants. On considère ici que les vélos en libre service doivent être un élément parmi d'autres d'une stratégie de développement de la culture cycliste, mais pas leur fer de lance. Ça, c'est le célèbre architecte danois Jan Gehl qui disait ça. À Paris, le nouveau contrat Vélib, ça représente le dernier, le deuxième, là, sur 10 ans, c'est 600 millions d'euros de coûts pour la collectivité. Le plan vélo de Madame Hidalgo de dernier mandat, sur 6 ans, c'était 150 millions d'euros. Donc vous voyez, on a mis toute la priorité sur le Vélib, donc sur la com en fait, et pas sur les infrastructures. Pourquoi le vélo change-t-il la ville ? Bah, pour nombreuses raisons que vous connaissez déjà, que j'ai pu évoquer, mais aussi pour une à laquelle on ne pense pas toujours, une moindre consommation d'espace. À votre avis, sur la photo que vous voyez là, il y a plus de vélos ou de voitures ? Donc il y a 59 voitures, je les ai comptées, qui enfin en mouvement. Pourtant on voit qu'elles, bon, il y a même déjà un début de bouchon. Et on compte 69 vélos en mouvement, sans dénombrer ceux qui peuvent être derrière les arbres. En fait, comme le dit quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, la responsable des questions de mobilité dans la région de Copenhague, une voiture reste une voiture, qu'elle soit verte ou noire, électrique ou pas. Du point de vue de la congestion, c'est la même chose. Le plus étonnant, c'est qu'il suffit de peu d'espace en fait, alloué en plus au vélo pour que la fréquentation explose. On voit sur cette photo aérienne du boulevard Hans Christian Andersen le peu d'espace réservé au vélo. C'est la partie en bleu, mais tout de même des espaces réservés. Sur l'ensemble de la ville, le vélo représente 62% des déplacements vers le travail, comme je vous disais tout à l'heure, avec une voirie qui ne représente que 7% de l'ensemble, en fait. Voyez, il suffit de faire peu pour le vélo pour que ça puisse représenter une part modale très importante. Alors pourquoi ça marche à Copenhague ? J'ai dit, on est parti des usages. Et alors, on va essayer de comprendre avec ce monsieur-là qui est un personnage important dans le vélo. En fait, c'est un architecte designer qui s'appelle Michael Colville Andersen. C'est un peu le gourou du vélo, inspirateur des politiques publiques à Copenhague, qui passe son temps en fait à expliquer aux élus du monde entier que la ville à vélo, ce n'est pas seulement une utopie ou pour faire bien. J'ai fait avec lui, j'ai eu la chance de faire un peu un tour avec lui du modèle de Copenhague. Parce que pour s'inspirer d'une politique, encore faut-il la comprendre. Moi, une de mes grandes surprises, ça a été de constater que des hommes politiques et français qui avaient fait le voyage de Copenhague, en fait, ils n'avaient pas compris pourquoi ça avait marché. Pourtant, vous allez voir, c'est assez simple, hein, mais je parle de deux personnages clés. C'était le monsieur vélo de Madame Hidalgo à Paris, le monsieur vélo de Grenoble. Et bien, tous deux ont passé une semaine à Copenhague, ils sont revenus, ils ont fait le contraire de ce qu'on fait à Copenhague. Et je vais vous expliquer dans le détail si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, dans la plupart des villes, la circulation à bicyclette est insécure, inconfortable. Les itinéraires cyclables, quand il y en a, sont le plus souvent mal conçus, régulièrement impraticables et le plus souvent discontinus. C'est vrai à Toulouse, par exemple. Alors que les automobiles bénéficient de l'essentiel de la voirie et de quasiment tous les budgets et les facilités, Copenhague a renversé la donne, en fait, avec un modèle très simple. Ne peuvent circuler ensemble que les véhicules allant à la même vitesse. On ne mélange pas piétons et cyclistes, comme on le fait à Paris, par exemple, sur les trottoirs, cyclistes et bus, comme on le fait à Paris, par exemple, ou cyclistes et voitures, qui rouleraient à plus de 30 km/h. En fait, il n'y a que 4 types d'infrastructures à Copenhague. Alors, dans une ville comme Paris, il peut y en avoir à peu près 20 différentes, parce qu'on a des pistes à gauche, à droite, au milieu, qui tournent. Voilà. Donc, il y a dans les quartiers, dans les secteurs résidentiels de proximité, où la vitesse est limitée à 30 km/h, là, auto et vélo sont ensemble sur la route. Ça fonctionne bien parce que les vitesses sont respectées. Et surtout, on n'a pas confondu transit et résidentiel. Parce qu'il y a des villes comme Grenoble ou Paris où on a dit « Oh, on va mettre tout à 30 !» mais sans tenir compte du transit. Alors qu'en fait, donc, les routes ne sont pas à 30. Il y a beaucoup de gens qui ne roulent à plus de 30 sur les zones à 30. Donc du coup, ça ne marche pas. Donc il faut les résidentiels, ça doit être du résidentiel. Ça ne peut pas être du transit. Deuxième type, les voies qui sont limitées à 40 km/h, elles sont bordées de pistes cyclables. Toujours à droite, ça c'est très important. de la circulation, voire des places de stationnement. Donc à droite, des places de stationnement, pas à gauche. Parce que quand c'est à gauche, quand on ouvre la porte, eh ben, on se prend la porte. Voilà. Le troisième type, le long des artères limitées à 60 km/h, les pistes cyclables sont séparées de la circulation au minimum par une bordure et souvent par des places de stationnement. Enfin, quatrième type, il n'y en a que quatre, lorsque la vitesse autorisée est supérieure à 60 km/h, les itinéraires cyclables empruntent un parcours entièrement séparé de celui des voitures et avec le moins d'intersections possible. Voilà le modèle principal en fait qu'on trouve à Copenhague. Hein. C'est donc il y a le trottoir pour les piétons, il y a la piste cyclable qui est à une hauteur un petit peu en dessous, et ensuite il y a la voirie. Alors c'est identifié, ça existe en France. On appelle ça la piste cyclable à hauteur intermédiaire entre trottoir et chaussée. Et ben dans la large concertation qui avait été faite à Paris et présentée dans un document qui s'appelait Paris capitale du vélo. Fallait oser quand même. Eh bien, il y avait 5 infrastructures qui étaient proposées, mais pas celle-ci, en fait. Les Parisiens n'ont pas eu le droit de choisir peut-être celle-ci s'ils avaient voulu. Autre principe élémentaire, assurer toujours la continuité des aménagements. On peut passer d'une piste à une bande, mais on conserve toujours la même largeur. Le cycliste n'a pas à retourner sur la chaussée ou à passer par le trottoir. La continuité vaut aussi quand il y a des travaux. Quand il y a des travaux, il y a toujours une continuité qui est assurée par la piste cyclable. Vous ne vous retrouvez pas avec un panneau cycliste pied-à-terre parce que ben, il y a un panneau, il y a un chantier, vous comprenez, on ne peut pas aujourd'hui. Ou alors c'est le marché, par exemple, boulevard Blanqui à Paris, quand il y a le marché, ben, le mardi et le vendredi, ben, la piste cyclable elle est fermée parce qu'il y a le marché. Alors, voilà. Dans les intersections, les espaces vélos sont très clairement identifiés en bleu. Les automobilistes respectent ces espaces, notamment quand ils tournent à droite, le fameux tourne à droite là, qui est très accidentogène, c'est pour ceux qui font du vélo, vous m'avez compris, pour 4 raisons principales. Pourquoi ça marche bien? D'abord, ils sont très visibles, vous avez vu, c'est du bleu, on ne manque pas. Généralement, il y a un feu qui arrête les voitures. Ces passages sont régulièrement empruntés, il y a très souvent des vélos, donc on ne va pas essayer de passer parce qu'en fait, on sait qu'il y a de bonnes chances qu'un vélo arrive. Et surtout, la plupart des automobilistes sont aussi des cyclistes. Donc ils comprennent pourquoi il faut faire attention quand on tourne à droite. La largeur des bandes cyclables, dont je vous l'ai dit, hein, elle n'arrête pas d'augmenter. On en est à 3 mètres de chaque côté dans la nouvelle norme, là, celle qui date d'il y a 5 ans maintenant. L'idée force, en fait, ça a été de rendre le vélo compétitif. Pas en argent, parce que évidemment c'est compétitif, ça on le savait déjà, mais en temps. Pour cela, les aménagements cyclables sont devenus prioritaires, en particulier les ponts permettant de franchir les nombreux bras de mer et canaux de la ville. Vous savez, Copenhague, c'est vraiment au bord de la mer, là. Il y a beaucoup de canaux, il y a un ancien port, etc. On voit par exemple au centre, là, on voit le grand pont, et bien ce pont, il est réservé aux cyclistes. Les voitures, il faut faire un grand tour si vous voulez aller de l'autre côté. Le principe, on le voit dans le petit schéma qui est en haut à gauche, là. Il s'agit de faire l'inverse, en fait, de ce qu'on a fait partout depuis les années 50, rendre plus compliquée la circulation des voitures et plus simple celle des piétons et des cyclistes. Ce pont-là, ce qu'on appelle le serpent cycliste, permet par exemple une liaison directe entre la gare et l'université en rattrapant la différence de niveau par une pente douce en fait, tandis que les voitures, quand elles veulent faire cet itinéraire-là, il faut qu'elles fassent un grand détour en fait. Originalité du système de comptabilité danois. En fait, dans le système de comptabilité publique, on doit évaluer le retour sur investissement pour les infrastructures qui reçoivent les subventions de l'État. Et dans ce calcul, rentrent en ligne de compte les gains pour la santé, et notamment le nombre d'arrêts de travail évités par le bénéfice de tel ou tel mode de transport. Moins de pollution, plus d'exercice. Résultat, le retour sur investissement de la dernière ligne de métro de Copenhague, c'était 3%, et celui de ce pont-là, de serpent cycliste, c'était de 9%. Donc on va pouvoir plus facilement encore financer ce type d'infrastructure. Au Danemark, la sédentarité fait perdre en moyenne 7 ans d'espérance de vie aux femmes et quasiment la même chose aux hommes. On estime que la pratique du vélo à Copenhague épargne plus de 1 million de journées d'arrêt maladie par an. Mais on mesure en fait, on ne fait pas seulement, voilà, c'est ça, c'est intégré même dans le calcul d'investissement. Alors certains vont me dire, je l'ai souvent entendu, c'est une affaire de culture, vous comprenez, ils ont toujours fait des vélos comme les Hollandais, etc. En fait, pas du tout, c'est une affaire politique, c'est une affaire de choix politique. Depuis plus d'un siècle, Copenhague est dirigée par la gauche, principalement social-démocrate. Aujourd'hui, c'est des alliances centre-gauche et avec les écologistes. Cette gauche-là, elle n'était pas moins favorable à l'automobile que dans les autres villes occidentales. La pratique du vélo était retombée très bas au cours des années 60. Au début des années 70, il y a même eu un projet d'autoroute, en fait, un peu comme à Paris, pour qui voulait traverser la ville. par chance, ils n'avaient pas assez de sous pour le financer, cette autoroute. Et ensuite, il y a eu la crise du pétrole, donc ils ont renoncé au projet. Par la suite, dans les années 70, la population s'est mobilisée avec de grandes manifestations annuelles contre la confiscation des rues par les voitures, comme on a vu ça aussi à Amsterdam, on a vu ça aussi à Berlin, à Paris, ça s'appelait les vélo-révolutions, ça existe toujours d'ailleurs. Ça date des années 70, hein, y compris en France. Mais ensuite, en fait, les Danois ont réussi à mieux se faire entendre peut-être qu'ici. Il y a une politique vélo qui a été progressivement mise en place. Il y a eu l'éruption des écologistes sur la scène politique qui ont participé au conseil municipal. Et la gauche s'est en fait ouverte beaucoup aux questions environnementales. Après les élections communales de novembre 2005, il y avait une congestion en fait, des pistes cyclables un peu traditionnelles de la ville. C'est devenu un des problèmes urgents. Et donc la première femme maire de la capitale, qui s'appelait Riet Bjerregaard, a lancé un ambitieux plan d'investissement dans les infrastructures et la construction d'un réseau cohérent avec une multitude de ponts. Il y a, je crois, 14 passerelles qui ont été faites. L'idée, c'était... Ils étaient juste avant la conférence mondiale sur le climat, vous rappelez, celle de Copenhague, alors qu'elle avait été un gros échec hein, en 2009. Et la municipalité s'était fixée pour objectif d'atteindre une neutralité carbone en 2025. Alors quelques exemples hein, d'infrastructures, je vais les passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, alors, des ponts, beaucoup de ponts en fait. Arrêtons juste un petit peu sur les pistes bidirectionnelles. Vous voyez là, dans les deux sens, double sens. Alors, c'est une infrastructure qui est idéale à la campagne, le long d'un cours d'eau, sur une voie ferrée, d'une manière générale lorsqu'il n'y a pas d'intersection. Le problème à Copenhague, on en retrouve en périphérie, en fait, ou dans les secteurs ne comportant pas d'intersection, des secteurs sans voiture, le long des voies de chemin de fer, le long des canaux, sur les ponts, comme on le voit ici. Alors, le problème, c'est que ça n'était pas vraiment bien compris par ceux qui ont visité Copenhague. Je me souviens d'une interview d'Anne Hidalgo qui disait « Nous prenons pour modèle les villes qui nous paraissent les plus en pointe, Copenhague et Amsterdam, et décidons de lancer un programme d'infrastructure avec des pistes cyclables plus larges, bidirectionnelles, protégées, pour permettre la généralisation du vélo. » Plus loin, elle proclame « Moi, j'ai choisi le modèle de Copenhague. » Elle a juste oublié une chose, c'est qu'à Copenhague, on ne fait pas de bidirectionnel, en fait. On ne fait pas de bidirectionnel hors des cas que je vous ai cités. On n'en fait pas, on n'en ferait pas rue de Rivoli, on n'en ferait pas boulevard de Sébastopol. Pourquoi on n'en fait pas dans là où il y a des intersections? Parce que c'est deux fois plus dangereux. Et depuis 25 ans, toutes les études le montrent. Il suffit juste de se plonger 5 minutes dans les études sur le sujet pour voir qu'on ne fait pas de bidirectionnel. Aujourd'hui, le programme de l'écologiste Béliard à Paris, c'est de faire partout des bidirectionnels. Il y a une espèce d'inculture qui est assez incroyable. Moi, je suis toujours surpris de découvrir ça. Il y a même à Londres, ils en avaient fait, ils les ont cassés parce que c'est trop dangereux. On ne peut pas faire des bidirectionnels là où il y a des intersections parce que c'est beaucoup plus dangereux. Hein, voilà. D'où le modèle d'avoir toujours les pistes à droite, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, le vélo à Copenhague, c'est aussi un art de vivre. Hein. Voilà, vous avez toutes sortes de vélos. Là, on est un bain de soleil face à l'opéra de la ville. Voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est pratique aussi. L'avantage du vélo, c'est qu'on arrive tout près. Quoi. Tout près, là, par exemple, il y a une baignade dans la rade qui est située en plein centre-ville. Alors, comment rendre le vélo facile, plus facile que les autres modes de déplacement? Quelques points clés. Il y a par exemple des bornes, bon, ça on en voit aussi en France hein, pour regonfler les pneus. Il y a beaucoup de commerces, en fait, il y a 600 commerces de vélos en ville à Copenhague. J'ai eu la chance donc de faire un tour avec Michael Colville-Andersen. Là. Lui, son credo, en fait, est vraiment très intéressant et je pense qu'il faut faire très attention à cette phrase-là. C'est un peu, à mon avis, l'axiome de ce que devrait être toute politique cyclable ambitieuse. Donc, je le cite, « Il faut comprendre comment fonctionne le cycliste. Ce qu'il redoute le plus est de devoir s'arrêter. Pire encore, de devoir mettre le pied à terre. » Voilà. Il faut intégrer ça. Par définition, un vélo, c'est pas fait pour être à l'arrêt. Donc à l'arrêt, on tombe en vélo. Enfin, pour un cycliste dont le vélo est bien réglé, s'arrêter, ça signifie descendre de la selle avant de poser le pied à terre, dépenser beaucoup d'énergie pour repartir. En outre, beaucoup de dérailleurs, surtout en France, au Danemark c'est différent, ne permettent pas de changer de vitesse à l'arrêt. Donc il faut anticiper, etc. Enfin, c'est compliqué quand on n'a pas les vitesses dans le moyeu. C'est pour ça que des vélos en France brûlent les feux rouges. Alors, donc, comment on fait pour les feux rouges? D'abord, on peut dire que les feux rouges, ça a d'abord été inventé pour les voitures. Avant, quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de feux rouges. Et dans les lieux où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas besoin de feux rouges. Donc, dans les zones 30, il n'y a pas de feux rouges à Copenhague. Pour les grandes intersections, les feux des voitures et des vélos sont décalés dans le temps et dans l'espace, ce qui permet aux vélos qui accélèrent plus lentement de partir plus tôt. Mais le plus malin, alors là c'est vraiment très malin, c'est les ondes de feu. Donc les ondes de feu en France, elles sont à 50 km/h. Donc le fait que quand on roule à 50 km/h, en fait, on va avoir tous les feux qui passent au vert. Et ben à Copenhague, ils sont réglés à 20 km/h. Et en fait, quand on est en vélo, eh bien tous les feux passent au vert au fur et à mesure. Et j'ai testé, j'ai fait 3,5 km comme ça et tous les feux sont passés au vert. Ça marche très très bien. Et lorsqu'on ne peut pas faire autrement que devoir s'arrêter, ça arrive quand même, bon, y a des rampes qui permettent d'éviter de descendre de la selle. Voilà, quelques exemples de rampes. Après, il y a toujours le problème du vol, etc. Je passe un peu vite. Hein, on vient en France de lancer le marquage des vélos. Ça s'est fait depuis 1948 au Danemark. Si on n'a pas un vélo gravé, on ne peut pas l'assurer, mais tous les vélos sont gravés et assurés, et donc dans ce cas-là, vous êtes remboursé, il suffit de donner le numéro d'enregistrement de votre vélo. Résultat, on garde les vélos partout, au pied des bureaux, voilà, on peut aller au plus près, hein, c'est l'avantage du vélo. Il y a même un peu des problèmes, en fait, à vrai dire, de stationnement près des gares, hein, il y a des grands chantiers pour ça. L'intermodalité a été pensée pour ceux qui habitent loin. Il y a le problème de ceux qui habitent plus loin, on en a parlé tout à l'heure. Le vélo est bienvenu dans les trains, en fait. On peut utiliser le vélo dans les trains, y compris dans le S-TOG, c'est un peu le RER, si vous voulez, et même dans le métro. On peut même prendre son vélo dans le métro, sauf aux heures de pointe. Ça existe dans quelques villes en France, hein, on peut.
Philippe,
faut que je finisse, c'est ça ?
Ça va être.
Voilà, je termine. Quelques exemples. Je voulais vous montrer comment on fait dans une entreprise, par exemple. Ben, il y a 200 places dans cette entreprise, il y a 200 places pour les vélos. Et ben, on prévoit tout. On peut faire la douche, on peut ranger, on peut faire sécher les chaussures. Voilà, tout est prévu. Juste deux mots pour le phénomène important, c'est la périurbanisation. Comment faire en périurbain? Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'enjeux. Souvent, bah, à Paris, par exemple, ça se développe quand même pas mal. Au centre de Grenoble aussi, on voit bien qu'il y a... Donc là, ils ont fait un maillage spécifique, en fait, dans les zones périurbaines. Donc il y a un plan sur 10 ans là, qui visait à construire, je ne sais plus, je chiffre quelque part, plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui est très intéressant, c'est que ce réseau-là, en fait, il est quasiment hors du circuit voiture. C'est-à-dire qu'on est, dans des zones, dans des réseaux qui sont autonomes, quoi, avec très très peu d'intersections. Voilà. C'est ce qu'on appelle les super pistes cyclables, ce qui a été traduit en français souvent par autoroute à vélo. Parce qu'à Grenoble, je me souviens, on parlait des autoroutes à vélo, mais en fait, ils n'avaient pas bien compris. Ils parlaient des autoroutes à vélo, mais au centre-ville, alors que les autoroutes à vélo, en fait, c'est en périphérie. C'est l'idée de... voilà, 750 km de superpistes ont été construites entre 2012 et 2022. Voilà. Qui sont de ce type-là. Hein. Donc, généralement, il y a un passage pour les piétons, pour marcher à droite, et passage asphalté pour les vélos. Voilà, on peut rentrer chez soi. Et je vais juste terminer. Je ne sais plus combien j'ai de diapos. Voilà, il y a des espaces spécifiques pour les enfants, pour éviter. On peut aller, en fait, à l'école sans jamais rencontrer une voiture. Dans les espaces périurbains, sans jamais. En fait, les enfants ne connaissent pas la confrontation avec la voiture. Voilà. J'ai encore plein de diapos. Non, j'ai vu juste celle-ci. Voilà, là, un truc qui est génial sur les feux rouges. Voilà, vous arrivez au feu rouge. En fait, hop, et ben, il passe au vert. Il passe au vert parce qu'il y a un capteur, en fait, qui a anticipé le passage du vélo. Et c'est priorité au vélo, en fait. C'est-à-dire, s'il y a un vélo, c'est feu rouge pour la voiture. Voilà. C'est fini.
Merci beaucoup, Philippe.
Même audio, une mémoire sonore.